Et moi, ce qui m'a touché, en fait, c'est dès qu'on accepte de manger la nourriture de l'autre, c'est qu'on l'accepte déjà. Et c'est une fierté et ça nous permet quand même de dire que la société nous accepte parce qu'ils ont fait quand même le pas de pousser la porte, de venir au festival. Ça, c'est un point très important pour nous. L'assiette, c'est juste, on mange tous les jours, on mange à la maison. Mais aller dans un resto pendant le festival ou l'autre, c'est de dire qu'on l'accepte. Et moi, ça m'a beaucoup touché.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans notre cuisine ici sur RFI, dans notre marmite aux accents du monde. En préparant cette émission, je me suis demandé, notre regard change-t-il davantage depuis la guerre en Ukraine? Depuis que le conflit est tout proche d'ici, pour qui est en Europe, change-t-on de perception et de regard si l'on est au Cameroun ou à Varsovie ou aux États-Unis? Ou bien comprenons-nous que le sort de ces hommes, de ces femmes pourrait être le nôtre? Hier, une vie normale et du jour au lendemain, tout qui bascule. La seule urgence, vivre, exister, c'est la renaissance. Le 20 juin, lundi, c'est la journée internationale des réfugiés et depuis 2016, le Refugee Food fait son festival. Le festival des hommes et des femmes qui plantent avec la cuisine les racines de leur nouvelle vie. Bonjour Marine Mandrila.
Bonjour Clémence.
Bienvenue.
Merci, je suis ravie d'être là.
7 ans que le festival existe, c'est dingue. 7 ans que vous avez fondé ce festival, Refugee Food, cette association avec Louis Martin. Comme une révolte et une réponse à l'indignité de l'accueil qui avait été fait aux réfugiés à l'été 2015. Et il s'en est passé depuis des aventures, n'est-ce pas? Parce que ça continue.
Il s'est passé pas mal de choses, entre autres la crise du Covid, mais le projet est devenu beaucoup plus qu'un festival. C'est diversifié, professionnalisé, solidifié, notamment pour renforcer la mission d'insertion professionnelle, d'accès à l'emploi, parce qu'on pense que c'est aussi vraiment grâce à l'accès à l'emploi qu'on peut s'épanouir dans une société d'accueil. Donc, il s'est passé beaucoup de choses depuis 7 ans, il s'en passera encore... Beaucoup, mais on est très heureux d'être
là, voilà, fidèle au rendez-vous.
Toujours
en tout
au bout
cas.
De 7 ans.
Et aujourd'hui, vous êtes venue avec 2 invités. Mm-hmm. On remercie beaucoup ces 2 invités qui sont 2 femmes qui vous accompagnent, donc 2 cuisinières. Ensemble, elles vont réaliser un 4 mains chez Fripon, donc chez vous, Pauline Séné.
Bonjour Clémence.
Bienvenue.
Déjà, je suis ravie d'être ici et en effet, je reçois Nika pour l'occasion du Food Refugee Festival. Pour un super repas à 4 mains, où on va vraiment explorer la cuisine de Nika, la cuisine ukrainienne. Et c'est ce qui me tenait à cœur. Je me dis que si les gens ont envie de goûter ma cuisine, ils viendront un autre jour.
Ah, vous vous effacez complètement alors. Mais non, déjà, on va dire bonjour à Nika.
Oui, bonjour Nika.
Bonjour Nika.
Bonjour Clémence.
Nika Lozovska, vous êtes ukrainienne. Et vous avez un restaurant en Ukraine.
Oui,
à Odessa. Qui est fermé pour l'instant.
Oui, on est fermé depuis le 24 février. On n'a pas pu ouvrir. Pourtant, dans ma ville, il y a pas mal de restaurants qui sont ouverts.
Votre français, excellent, tend à me laisser penser que vous avez vécu un petit peu en France déjà. Et peut-être que vous vous êtes rencontrés d'ailleurs au préalable dans votre vie,
oui,
l'une et l'autre.
En effet, on s'est rencontrés il y a...
À peu près 8 ans, 8,
ouais,
8
ouais,
9 8, ans,
ouais,
quelque chose
ça.
Comme ça.
À Ferrandi, à l'école.
À l'école
de cuisine,
Ferrandi, exactement. J'étais en dernière année d'études et puis Nika était en première année. Et elle avait été mon commis.
Oui, commis.
Commis au restaurant d'application.
Ouais, parce que, oui, c'est ça. Chez Ferrandi, ouais, il y a un restaurant où les élèves.
Exactement. Et je crois que j'ai travaillé plusieurs fois avec Nika. Mais c'est marrant.
Je me souviens d'une fois pour.
Moi, c'est sûr, je me souviens. Oui, c'est sûr, mais. On s'est croisé beaucoup de fois. Et puis, on est resté amis sur Facebook. Enfin, voilà. Donc, non, mais c'est le genre de. Enfin, c'est.
Genre de hasard de la vie aussi
dingue.
Qui vous font vous rencontrer
non,
il y a 8 ans.
Moi, je trouve ça dingue que la vie nous réunisse. Bon, je trouve que c'est. J'aurais aimé être réunie autrement, mais. mais ça fait plaisir.
Vous avez dit, Pauline, ce sera un dîner ou un repas totalement ukrainien.
On dirait, parce que moi, je ne fais pas tout à fait la cuisine ukrainienne.
Oui.
Mais c'est pas tout mon spécialité. Mais on s'inspire des produits, on s'inspire beaucoup des plats, en fait, que nous, on fait dans mon restaurant à Odessa. Mais dans mon restaurant, on ne fait pas de la cuisine ukrainienne, mais on cuisine avec des produits ukrainiens.
D'accord.
Beaucoup de produits régionaux, sauvages. Et donc, j'ai essayé de trouver soit équivalent, soit remplacement parmi les produits français. Et oui, on va utiliser quelques manières qui ne sont pas vraiment courantes en France, mais... C'est un peu mes façons de Dizengoff, de mon restaurant, que j'avais développé pendant 6 ans.
Je n'ai pas eu la chance de goûter encore votre cuisine. Mais ce qui m'a amusée, c'est que j'ai vu à droite, à gauche, dans les papiers vous concernant, Pauline, que pour comprendre votre cuisine, il fallait déjà être bien curieux, grimper jusqu'à Ménilmontant sur votre restaurant et aussi, accessoirement, avoir un accès au web parce que vous utilisez pas mal d'ingrédients qu'on connaît peu. Est-ce que c'est l'occasion, là, de découvrir peut-être une manière de cuisiner ou même des ingrédients que vous ne connaissiez pas ?
Bah, là, en fait, alors, oui, j'utilise des ingrédients un peu... J'essaie de piocher des choses qu'on a moins l'habitude. Mais après, ça reste quand même très accessible. Mais oui, en effet, là, avec Nika, j'avais envie de... On ne part pas sur des ingrédients non plus inconnus au bataillon en France, mais c'est plus une façon de faire. Des recettes que Nika a l'habitude, c'est vraiment approprié. Et là, je ne me suis pas totalement effacée sur le menu, parce que le but, c'est vraiment qu'on fasse un quatre mains. Mais j'avais envie qu'on mette en avant la cuisine de Nika. Et moi, d'apporter mes petites touches en plus, que ça se complète. Mais ça sera principalement la cuisine de Nika.
Vous l'avez découverte à cette occasion, Pauline, la cuisine ukrainienne. En tout cas, certains produits, certains aspects. Comment est-ce que vous la décrivez? Si je vous pose la question, c'est quoi la note de goût ukrainienne qu'on va retrouver?
Pour dire la vérité, il n'y aura pas de goût de la cuisine ukrainienne. Plutôt peut-être quelques influences de la cuisine de ma région, Odessa. Donc, on est situé au bord de la mer. Et donc, c'est vraiment... L'Ukraine est très large comme pays. Et les cuisines sont différentes. Et il y aura pas mal de produits de la mer.
Il y a beaucoup de produits de la mer.
La salicorne, on va travailler le boulot, les anchois. Si on trouvera les eaux de poisson, de rivière. Donc oui, ce sera vraiment côté mer. Pendant ce dîner, en fait, on ne va pas partir. Ce n'est pas notre but.
C'était plus de faire connaître la cuisine de Nika et de voir comment on arrive à combiner nos deux cuisines et aussi tout simplement à se faire plaisir. qu'est-ce qu'on avait envie chacune de cuisiner ? C'est un esprit. Forcément, Nika est ukrainienne. Elle a même si elle a son restaurant à Odessa, comme elle dit, elle a une façon...
La plupart des produits... qu'on utilise, on trouve à Odessa, ils sont très courants pour cette saison.
Ah oui,
aussi, on n'a pas pris des produits qui n'appartiennent pas.
Ouais, il y a peut-être 2-3 choses on va peut-être avoir. Ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais je pense qu'on va pouvoir tout trouver.
C'était les girolles, c'est ça?
C'est bon, il y en a.
Ah oui,
c'est bon.
À Odessa, c'est la saison des girolles.
Et pas ici. Oui, c'est une cuisine de saison quand même. Enfin, je vous avoue que, évidemment, l'offensive russe en Ukraine a soulevé tout un élan de solidarité, notamment en Europe, y compris dans la gastronomie. De nombreux auteurs culinaires, de nombreux cuisiniers ukrainiens ont eu à cœur justement de faire connaître cette cuisine. Je pense à Olia Hercules qui est à Londres, qui avait publié il y a 2 ans un très beau livre qui s'appelle Summer Kitchen, question de connaissance et de culture culinaire. La cuisine ukrainienne, on la découvre dans le sens où, justement, pour s'approprier, et c'est ce que permet la cuisine, c'est préserver un savoir-faire, un héritage, une culture, pour que ça reste bien dans l'assiette aussi. J'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce d'affirmation d'une cuisine.
Je pense qu'on essaye tous de s'affirmer dans nos cuisines. Mais moi, par exemple, oui, je suis française, mais je ne vais pas faire que de la cuisine traditionnelle française. Et je pense que c'est ce que dit Nika, quoi. Elle va se nourrir de ses origines. Je vois, on a un dessert qui vraiment tient à cœur à Nika, c'est la recette de ta grand-mère.
Oui. On a le droit de dire ou pas?
Teasing.
C'est un teasing. Alors, ingrédient phare peut-être de ce dessert, Nika, de la cuisine de votre grand-mère?
C'est le miel.
Donc après on essaie de s'inspirer de nos cultures respectives et de nos traditions et de s'inspirer aussi un peu de tout ce qui se fait et de tout ce qu'on aime. Enfin là pour le coup on a vraiment fait le menu en se disant moi j'aime cuisiner ça comme ça, toi au restaurant tu fais ça comme ça. comment on pourrait, parce qu'on fait un menu en 8 ans. Donc, ça va être un beau menu dégustation. Donc, il faut quand même qu'il y ait une cohérence, que tout soit lié. Donc, ce sera principalement des produits de la mer. On a mis quand même une viande.
Oui, une viande.
Mais c'est quelle pas... viande ?
Qu'est-ce qu'on a mis comme viande ?
Agneau.
Agneau. Agneau. Oui, on a mis carré d'agneau. Et mais oui, non, on s'est vraiment fait plaisir.
Mais créer ce menu, il doit y avoir quelque chose d'assez jubilatoire.
Ouais, pour le coup, ça a été. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce moment où Nika me disait, moi, je fais ça comme ça au restaurant. Qu'est-ce que t'en penses ? Parce que c'est vrai que moi, je tends plus à faire une cuisine gastronomique, contrairement à, enfin, ce que tu me disais, tu faisais plus un esprit. Bistrot, quoi. Enfin, comme moi, mais du coup, là, on a pu allier nos deux styles et franchement, ça s'est fait très naturellement, très facilement.
Le miel, ça m'amuse parce que vous dites comme si c'était quelque chose de totalement évident. Mais en fait, un dessert au miel, c'est pas évident.
Je pense aussi,
c'est
oui,
pas
c'est
si
pas
fréquent.
Si courant,
c'est...
Ouais. Oui, c'est rarement l'élément principal. C'est souvent un petit. Enfin, pour. Je sais pas, par exemple, là je vais faire un abricot rôti et c'est au miel. Je dis pas que je mets du miel.
Non, dans notre cas, le miel fera partie de la pâte. Donc ça va être dans la pâte et la pâte est cuite au bain-marie. Donc c'est une recette vraiment un peu compliquée à faire.
J'ai hâte de voir cette recette.
Mais en plus, ça va être la première fois que je le fais. C'est la recette de ma grand-mère, mais elle va être avec nous, on va l'appeler par vidéo chat, ouais. Elle va nous aider, j'imagine.
Oui, à réaliser ce dessert incroyable.
Et on verra aussi, parce que les ingrédients, souvent, sont un tout petit peu différents. La farine, par exemple, le lait.
Ah oui, oui, oui. Il va falloir qu'on sache exactement quel type de farine.
Mais c'est ça, en fait, c'est qu'on a l'impression que vous allez vous mettre dans les pas de Nika pour réaliser un menu et sans même vous le dire concrètement, elle est en train complètement de vous livrer la culture ukrainienne. Parce que j'ai lu un livre autour de l'Ukraine et de l'histoire de la cuisine et le miel, il est évident dès les premières pages. Donc on se dit, c'est rigolo comme transmission.
Oui, non, mais je pense qu'elle reste très modeste sur en fait, ce qu'elle me livre. Parce que c'est un cadeau. Enfin, moi, j'avoue que quand on m'a proposé de faire ce partenariat avec Nika, ouais, voilà, je suis hyper contente, c'est un cadeau. Et puis là, j'ai hâte qu'on fasse tout ça ensemble parce que je vais découvrir plein de choses.
Le goût du monde. Clémence de Navi. Mamzine na sa tinga haliti konse mam tolambaira tunda dapaga mamwene kapa machuga ye vakase mam kwilambaira na tifura mamzine na sa tinga haliti konse mam tolambaira tunda dapaga mamwene kapa machuga ye vakase mam kwilambaira na tifura yammi busuman be ni yammi busuman be Yummy was a man, Benny. Did a pass up, man. Yap, we love my nasa thing. I did a pass up, man. Yeah, a money, but pass up, yeah, and did a pass up, man. My food, I mean, that one be, did a pass up, man. Yeah, a money, but pass up, yeah. My food, a bag, I'm so coming. A food, I'm a bag, I'm so coming. Mamzine na sa tinga haliti konse mam tolambaira tumna dapaga mam wene kapa machuga ye vakase mam kwilambaira na tifura
I'm a
soke mam fure paga mam so pamme fure mam kwapaga mam so kame ye mam fure paga mam so kame fure mam kwapaga mam so kame.
Amène-la, Talen Longué. Sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. C'est Tanguy Guira qui chantait cette belle chanson. Vous écoutez donc Le Goût du Monde en plein Refugee Food Festival jusqu'à fin juin dans une dizaine de villes en France. Des cuisiniers réfugiés cuisinent à quatre mains avec des cuisiniers installés à Lyon, à Marseille, Nantes ou Paris. Je ne vais pas toutes vous les donner, ces villes. En tout cas, elles sont sur la page de l'émission. Des histoires contées à quatre mains et en toute saveur à l'image de celle qui sera dévoilée lundi donc chez Fripon. Une histoire contée à deux mains de deux personnes qui se connaissent déjà et qui se redécouvrent à l'occasion de ce dîner, Nika Lozovska, ukrainienne, donc propriétaire d'un restaurant à Odessa, cuisinière. Comment s'appelle votre restaurant ?
Dizengoff.
Et bien sûr, Pauline Séné, chef de Fripon, qui a ouvert à l'automne ?
On a ouvert en octobre 2021.
Octobre 2021, donc Ménilmontant, tout en haut là-haut.
Exactement, faut monter.
Et bien sûr, Marine Mandrilla, qui est la fondatrice, cofondatrice du Refugee Food Festival, devenu Refugee Food, une association qui, justement, permet aux réfugiés, par la cuisine, de s'inventer et surtout de se faire une nouvelle vie et de
s'épanouir, en tout cas, dans notre pays, de découvrir peut-être aussi un bout de la cuisine et de la culture française, notre société. Mais surtout de trouver leur place dans la cuisine, mais dans notre société.
La cuisine n'est pas un prérequis, cependant, pour pouvoir faire. Parce que le Refugee Food a mis en place des formations qui permettent donc aux réfugiés d'être formés, puis d'exercer en milieu professionnel, que ce soit dans les cantines scolaires, par exemple, en restaurant collectif, ou alors dans la restauration privée, comme dans les restaurants. Ces deux formations, pour y accéder, comment est-ce qu'on peut faire ?
Effectivement, elle est entre guillemets pour l'instant dédiée aux personnes réfugiées qui sont bénéficiaires de la protection internationale. La majorité ont déjà un passé en cuisine, que ce soit vraiment très professionnel ou bien plus amateur, mais voilà. Peu sont vraiment en découverte totale, mais attirés par les métiers de la cuisine. Vraiment, ce qui est important pour nous, c'est vraiment de comprendre ce que sont les métiers de la cuisine, qui sont, et je ne vais pas l'apprendre aujourd'hui avec deux chefs avec nous, mais qui sont des métiers pas évidents. Donc c'est vraiment d'avoir compris, entre guillemets, les contraintes du métier, et puis d'avoir vraiment envie de se projeter dans ces métiers-là. Et puis d'avoir un premier niveau de français pour pouvoir suivre les cours, même si dans la formation, il y a un gros socle de français appliqué à la restauration, un accompagnement social, etc. Donc voilà, la majorité a déjà un passé dans la cuisine, mais ce n'est pas forcément un prérequis.
Un prérequis. Alors il y a eu bien sûr des premiers chefs, des cuisiniers qui sont passés par le Refugee Food Festival en 7 ans, notamment Nabil Attar, bien sûr, venu de Damas en Syrie avec sa femme et leurs deux enfants. Un des premiers chefs après Mohamed.
Un des premiers chefs, Nabil, nous a écrit en 2017 sur Instagram en disant « Voilà, je suis arrivée il n'y a pas longtemps, j'étais ingénieure dans les systèmes bancaires, mais je faisais mes charcuteries et mes fromages dans ma cave à Damas et je veux devenir chef. » Et c'est mon objectif et voilà. Et c'était le premier cuisinier en résidence qui est venu à Grain de Contrôle dans notre petit comptoir. Et puis voilà, vraiment quelqu'un de totalement autodidacte, énorme capacité de travail, accompagné par des chefs, notamment Stéphane Jégot, qui depuis a ouvert du coup son propre restaurant à Orléans, qui s'appelle Narenge, avec son épouse Susanna.
Je vous propose de l'écouter, non ? Et vous avez passé un coup de fil dans une précédente émission autour du Refugee Food Festival.
J'étais ingénieur de banque et informatique, mais la cuisine c'était mon centre d'intérêt, ma passion. Donc dès qu'on est arrivé en France, j'ai dit à Susanna, ma femme, qu'on a tout perdu, pourquoi pas, on peut suivre... mon rêve à être chef cuisinier. Et voilà, ce rêve a réalisé.
Qu'est-ce que la cuisine dit de votre pays ?
La cuisine, je trouve que le moment où on était arrivé, on était seul et on ne parlait pas du tout français, moi et ma femme et mes enfants. Donc j'ai commencé à faire quelques plats et partager avec les voisins, les voisines, mon médecin, j'ai trouvé que c'est un moyen de partager, communiquer, sans avoir la langue, comme la musique.
Narenge, Nabil Attar, Je vous conseille franchement d'y aller, c'est à Orléans. Il est ouvert depuis 4 ans maintenant. Et au Refugee Food Festival, nouvel aspect du festival cette année, il y aura également des artisans, une idée géniale. Et en l'occurrence, Nabil va travailler avec un fromager.
Absolument, avec la fromagerie Taka et Vermo, qui est dans le 10e arrondissement de Paris. Et ils ont fait une collaboration autour de fromage, d'aloumi, de fromage de chèvre, etc. Et d'épices syriennes, qui est en vente jusqu'au 26 juin dans la boutique Taka et Vermo. Il y a aussi à Paris un boulanger, Saint Boulangerie, qui a collaboré avec un boulanger guinéen, Moussa, qui est super talentueux. Une pâtisserie, Emma Duverré. Et puis dans d'autres villes, il y a aussi des brasseurs qui ont pu participer au projet. On est très, très heureux.
Il y a du café aussi un peu, j'ai vu à Marseille, non ?
Non, à Marseille, ce qu'il y a, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt une dégustation de café éthiopien. Mais pas de vraie collaboration autour du café.
En tout cas, super idée, parce qu'il est évident que les ingrédients et les artisans avec lesquels les cuisiniers travaillent font partie intégrante de la cuisine. Oui, Marine.
J'ai oublié de préciser une collaboration assez inédite autour d'un pâté en croûte avec Arnaud Nicolas, qui est le meilleur ouvrier de France, qui a imaginé un pâté en croûte avec Aïssam Karachay, qui est un cuisinier syrien passé par Cuisine Mode d'Emploi, qui s'est formé vraiment pour le coup en reconversion totale aussi, Aïssam. Et qui ont produit un pâté en croûte d'inspiration syrienne qui sera aussi en vente à partir du 24 juin dans les boutiques Arnaud Nicolas à Paris.
Important d'avoir cette déclinaison, justement. Comment est-ce qu'ils ont réagi, les artisans ? Est-ce que ce sont les artisans qui sont venus vers vous, d'ailleurs, pour vous demander ?
Des fromagers étaient venus vers nous les années précédentes. Il y a des brasseurs qui sont venus à nous. Et puis, pour le reste, c'était plutôt dans l'autre sens. C'est qu'on a rencontré un boulanger. On s'est dit, mais en fait, pourquoi pas en fait,
Ouais, c'est une super idée, franchement.
La cuisine, bien sûr, mais l'artisanat, les métiers de bouche ont largement leur place parce qu'on parle de savoir-faire, on parle de saveur, de partage, de transmission, de technique aussi. Donc ça a toute sa place et on espère pouvoir continuer les années suivantes et puis même aller plus loin encore avec des artisans.
Pauline Séné, Nika Lozowska, on a commencé un petit peu à brosser votre menu, donc on sait qu'il y aura du poisson, on saura qu'il y aura une viande et ce gâteau au miel. Est-ce qu'il y aura du pain sur la table ? Et quel pain ?
Oui, il y aura du pain. Donc on va continuer de travailler avec ma boulangère, Claire, de Éléments, qui est à Ménilmontant. Moi, j'avoue que c'est un pain à la farine de seigle, ou le vin, qui est formidable. Et là, d'autant plus dans notre menu, on fait beaucoup des plats en sauce. Faut saucer. Et donc, du coup, le pain est primordial.
Parce que j'ai cru voir qu'en Ukraine, le pain était important. Le pain fermenté, le pain, les différents pains.
Ah oui, tout à fait, bien sûr. Tous les produits, oui, à base de blé. On fait même le boisson à base de pain. Le boisson fermenté qui s'appelle le kvass. Et après, à base de kvass, on fait la soupe. Donc, on peut manger la soupe faite de pain avec le pain.
Et boire le pain.
Parfois, les soupes sont servies dans le pain aussi. C'est courant assez dans la cuisine traditionnelle. Mais oui, il y a un grand rôle de pain dans la culture.
J'ai vu qu'il y avait pas mal de sarrasin aussi. Est-ce que c'est une céréale qu'on utilise beaucoup ?
Ah oui. Ça, je pense que pendant la semaine, un Ukrainien mange le sarrasin quelques fois par semaine. Ça peut faire partie de petit déjeuner, ça peut être sucré, ça peut être une garniture salée. C'est super important pour nous.
Mais c'est on le adore. Goût. Qu'est-ce qui plaît ? C'est la culture qui
la
est importante.
La nutrition, je pense, qui est très intéressante. Et c'est l'habitude. Mais surtout, oui, c'est facile à faire, c'est bon pour la santé. Et ça fait partie des symboles, je pense, de notre agriculture.
Oui, complètement. Est-ce qu'il y a des herbes, des épices que vous appréciez et que vous glissez et qui vous rappellent chez vous, tout simplement ?
Donc, on utilise beaucoup de l'aneth, on utilise beaucoup la coriandre, on utilise beaucoup les vers de céleri dans beaucoup de préparations. Le thym aussi, le laurier, après c'est les mêmes, comme en France. Mais en France, on n'utilise pas énormément l'aneth.
Non, pas tellement, ouais.
Je trouve même que ça a une mauvaise réputation un peu en France, non ?
L'aneth, je ne sais pas. En tout cas, Aruna So, qui est un ancien du Refugee Food Festival, qu'on a entendu également dans le générique, Aruna l'utilise, l'aneth, avec le mil. Il fait des mélanges un peu nouveaux. Non, la nette passe pas.
La nette séchée ou la nette fraîche?
Non, de la nette fraîche. Vous l'utilisez, Pauline?
Oui, moi, parce que moi j'adore la nette. Non, ce qui pose plus problème, c'est la coriandre. Et beaucoup de gens n'aiment pas la coriandre, alors que je trouve ça fabuleux. Mais moi, j'aime beaucoup, je partage la même passion Annette avec Nika. Donc, en effet, il y aura beaucoup d'Annette dans notre menu.
D'accord, donc soyez prévenus. Il y aura de l'Annette, mais pas de la coriandre, a priori.
Peut-être un peu de coriandre.
Est-ce qu'on aura, au final, 8 plats, vous avez dit?
En fait, il y aura 3 amuse-bouches, 3 entrées, 2 plats. Et 2 petits desserts.
Quand vous parlez d'amuse-bouche, quel est le premier goût qu'on va pouvoir avoir? Juste le goût, l'ingrédient, pas l'amuse-bouche en
on
soi.
On avait mis les anchois.
Ouais.
Anchois on frais. Dirait, oui, juste mis en sel. On dirait un gravlax d'anchois, pour dire joliment.
Exactement.
D'accord.
Donc, pour commencer tout en fraîcheur. Et il y aura aussi une huître, donc pour amener ce côté un peu iodé. Et
les œufs de poisson. Les œufs de poisson.
Ah oui, le caviar. Le beignet.
Le beignet, ouais, oui, exactement. Avec la sauce artichaut. Oui.
On est bien là.
Ouais.
Cette cuisine, comme elle s'exprime, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle est vraiment synonyme de culture. On l'entend depuis le début de cette émission. Et je voudrais juste vous rappeler, Marine, un des candidats à la formation Tournesol qui s'appelait Pape et qui nous avait bien raconté comment il saisissait la culture française, juste en observant les gens manger. Je propose de l'écouter.
La cuisine aussi, c'est un sujet où tout le monde aime parler. Il est facile de trouver des gens, discuter sans s'ennuyer, quoi. Et comme ça, ça va faciliter ton intégration, mais même renforcer votre culture, quoi. Vous allez mieux cultiver, quoi. Et avec la cuisine aussi, je peux connaître les habitudes socio-culturelles des Français. Par exemple, le Français, qu'est-ce qu'il préfère manger au petit déjeuner, au repas ou bien au dîner? Et tout ça, c'est intéressant. Par exemple, le week-end, des fois, si je fais rien, je me promène à Paris, mais je vois que tous les restaurants sont remplis. Il y en a qui boivent du vin, il y en a qui préfèrent manger des salades, d'autres choses, quoi. C'est joli à voir, quoi. Mais avec la cuisine, je pourrais apprendre beaucoup de choses, sans compter ni côté français, le vocabulaire, la grammaire et la conjugaison. Parce que dans la cuisine, il y a des vocabulaires spécifiques. Vous pourrez apprendre certains ingrédients, certains verbes, tout ça. Oui. Avec la grammaire, par exemple, pour exprimer votre goût, ou bien les quantités, tout ça, ça va vous aider, quoi. Et pour la conjugaison, pareil. Parce que, par exemple, pour préparer une assiette, c'est une succession d'actions, quoi. Et ces actions-là, il faut les mémoriser pour que l'assiette soit bien. Tout ça, au niveau oral ou bien au niveau du français, ça va m'aider, quoi.
Pape, je me souviens très très bien de la gourmandise avec laquelle justement il apprenait la culture française, mais la gourmandise en termes d'enthousiasme et d'excitation dans l'apprentissage. Et il m'avait révélé d'ailleurs que pour lui, la cuisine française, c'était une salade. Et effectivement, dans plusieurs pays, de gens, des représentants, des cuisiniers avec lesquels j'ai parlé, on m'a souvent dit la salade, c'est le truc qui va signer le...
Ouais, c'est marrant.
Comment on sait faire. Donc, c'était... Donc,
j'aurais
c'était...
pas dit ça.
Pas du tout.
Moi non plus, a priori, mais c'est ça marrant. Qui est drôle. Donc, dans le regard qu'on peut porter. Marine, depuis le début du Refugee Food Festival, l'idée au tout début, c'était de changer le regard des gens sur les réfugiés. Est-ce que vous avez le sentiment que ce regard, il évolue et à vitesse grand V peut-être? Maintenant.
Je pense que ce regard, il évolue, effectivement. On essaye aussi, nous, de mettre en place des mesures d'impact, c'est d'essayer de comprendre comment nos actions, comment le festival contribue à faire évoluer les regards, ou en tout cas à apporter un autre regard, une autre réalité sur les personnes qui juste fuient leur pays parce qu'ils n'ont pas le choix, qui trouvent refuge dans notre pays. Je pense que malheureusement, l'année écoulée avec la prise de Kaboul et le conflit russo-ukrainien a permis aussi d'éclairer sur le sujet des migrations d'une manière générale et de rappeler ce qui nous a animés aussi, nous, à la base, qui est de dire que les migrations ont toujours existé, existeront toujours, que les migrations forcées, c'est malheureusement aussi l'histoire de nos grands-parents, moi, de mes parents, de peut-être malheureusement de nos petits-enfants et de nos enfants, ne serait-ce que pour des raisons climatiques. Donc je pense que l'année passée est quand même une année qui a une résonance particulière sur les sujets qu'on essaye de traiter. Donc voilà, en tout cas, j'espère, moi, on essaie d'être optimiste, nous, Refugee Food, et on espère que les regards et les mentalités évoluent dans le bon sens. Et c'est aussi pour ça qu'on a de l'énergie pour continuer et pour continuer à dire qu'il faut aussi accueillir dignement les personnes qui viennent trouver refuge dans notre pays.
Et indifféremment aussi, je ne sais pas ce que... En fait, en introduction, c'est ce que je disais, j'ai vraiment réfléchi sur le fait que comment est-ce qu'on regarde justement les réfugiés aujourd'hui alors que la guerre en Ukraine est aux portes de l'Europe. Est-ce qu'on regarde différemment? Est-ce que du coup, cet élan de solidarité, il est différent ou alors qu'il ne devrait pas l'être?
Encore une fois, moi, j'ai plutôt envie de voir les choses d'un point de vue positif, qui est... Voilà, il y a forcément un effet de mimétisme j'imagine que les Français s'identifient peut-être plus aux Ukrainiens parce que c'est proche de nous, parce que physiquement on peut se ressembler, etc. Après, je pense que ce qui est important de rappeler, et notre rôle en tant qu'association, et toutes les associations avec lesquelles on travaille, c'est de rappeler malheureusement que la détresse du peuple ukrainien à l'heure actuelle est la même détresse que le peuple syrien, yéménite...
Ou les peuples camerounais aujourd'hui qui sont encore en proie à des conflits.
Absolument, nigérian, éthiopien, érythréen, ouest-africain pour certains, voilà. Et que cette détresse, c'est une détresse qui est humaine avant d'être nationale, voilà.
Donc c'est les conditions de l'aide, c'est vraiment penser à la manière dont on accueille.
Absolument.
Avec toute la beauté que contient ce terme, accueil.
Et je trouve aussi que les métiers de la cuisine... permettent d'accueillir et d'offrir justement cette hospitalité, d'accueillir à sa table ce que disait Aruna au début de l'émission, mais voilà, le fait de manger la cuisine de l'autre, c'est le meilleur de l'accepter. Et pendant le Refugee Food Festival, toutes ces cuisines du monde et toutes ces... Il y a des milliers de personnes, là, quasiment 10 000, je crois, qui vont venir manger dans les restaurants du festival aujourd'hui. Ben, c'est autant de personnes qui mangeront des cuisines ukrainiennes, irakiennes, sénégalaises, etc. Et c'est une manière d'accepter ces cultures et de les honorer aussi dans notre pays.
Puis c'est bien la cuisine, on n'a pas besoin de mots. On peut tout de suite séduire.
Et puis c'est aussi une zone de plaisir. J'espère que... Bon, là, j'ai aucun doute pour lundi soir chez Fripon, mais l'idée c'est aussi d'apporter du plaisir à toutes ces personnes qui vont venir manger au restaurant et de se faire plaisir aussi autour de belles tables communes.
Si j'avais un bateau, je partirais loin d'ici, je partirais loin de là, je mettrais les voiles, j'irais comme l'oiseau, parcourir la vie, découvrir ma voie, décrocher mon étoile, qu'importe si je me perds, quand le ciel s'éteint moi, j'avance bercé par l'univers, plus rien ne me retient. J'avance et j'oublie. Je pars à l'aventure. Je laisse tout derrière moi, je pars. Soyez-en sûrs, cette fois, même si ici tout me retient, même si dehors tout me fait peur, je pars à l'aventure. Si j'en avais la force, je crierais haut et fort au sommet des montagnes, tout ce que j'ai au fond. Si j'en avais le cran, j'échangerais mon sort contre l'air qui soigne. Je quitterais ma maison, qu'importe si je me traîne, si le voyage est long. Si le manque me peine, si je perds la raison, j'avance et j'oublie. Je pars à l'aventure, je laisse tout derrière moi, je pars. Soyez-en sûrs, cette fois, même si ici tout me retient, même si dehors.
Nash, l'aventure sur RFI, vous écoutez le goût du monde. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'heure du Refugee Food Festival avec Pauline Séné, chef de Fripon, Nika Lozovska, cuisinière ukrainienne, et Marine Mandrila, la cofondatrice du festival. Alors on parlait bien sûr de ces cuisines et du regard qui change et qui chaque année change davantage, regard porté sur les réfugiés, et c'est ce pourquoi aussi le Refugee Food a été créé, Marine. Maintenant, ce regard change-t-il quand il s'agit d'embaucher ? parce que la France notamment se plaint beaucoup en restauration d'avoir des problèmes à recruter des gens, et cependant il reste encore une frilosité quand il s'agit de recruter, d'engager des réfugiés. Alors, je parle de manière très générale, cependant, il existe des endroits et des établissements où des partenariats et des échanges sont créés. Je suis allée à la brasserie du Bio, rue Saint-Denis à Paris, rencontrer Baptiste Swigart et embaucher récemment Sherzad, qui est un réfugié afghan. Je vous propose d'écouter cette rencontre.
On accueille des stagiaires, je pense, dès le début de l'été, quoi. Ouais. Mais on fait ça dans les trois brasseries maintenant. Hein. Ouais. En vrai, nous, on ne va pas tirer la couverture vers nous. C'est vraiment... Le taf est fait par Refugee Food. Ils font un taf de dingue, vraiment. C'est une asso trop bien. Je ne les connaissais pas du tout avant qu'on commence notre collaboration. Je dois dire que j'étais très loin de ces problématiques-là, de l'accueil des migrants, de la formation des migrants, de leur intégration ici. Ils m'ont ouvert les yeux sur ça et c'est trop cool ce qu'ils font. Nous, on fait rien du tout que de les former en cuisine, mais tout le mérite leur revient vraiment. Et du coup, nous, on accueille des stagiaires dans nos trois brasseries. On aura d'autres brasseries plus tard, donc on les accueillera volontiers. De un, parce que ça ne coûte pas grand-chose d'aider à former des femmes et des hommes qui ont souvent des parcours chaotiques pour arriver jusqu'ici, etc. Enfin, c'est vraiment pas simple. Nous, on a juste à les accueillir et leur montrer comment on cuisine. Et si ça se passe bien, leur proposer un CDI, c'est vraiment le must, quoi. Enfin... On a réussi avec Sherzad. On a besoin de monde, on se développe. Et si en plus on peut aider des personnes qui en ont vraiment besoin, bah c'est, franchement, c'est trop cool. En vrai, c'est comme si on venait déposer un CV. Ce qui change avec l'asso et ce qui est cool, c'est qu'on a cette période tampon du stage où là, on peut vraiment les former. Quand on engage quelqu'un en CDI, il faut qu'il soit opérationnel. Donc nous, on a ce petit sas d'ajustement pour des personnes qui... La Sherzad, par exemple, était cuisinier avant, donc c'était beaucoup plus facile. Mais on accueille principalement des gens qui n'ont aucune expérience en cuisine. Hein. Donc on a ce petit stage où... Ils sont là pour apprendre, ils sont là pour se former et on a du temps à leur consacrer pour ça, quoi.
C'est monsieur qui a soigné un collègue qui s'est blessé tout à l'heure.
Ah, mais alors, il a d'autres qualités, c'est que c'est un excellent kiné. Il fait craquer les os comme jamais.
Ah, c'est bon, un kiné.
Ah, ouais, non, mais incroyable. Il a remis la nuque de tout le monde.
Sherzad.
Sherzad.
Vous avez fait sésame ou tournesol?
Sésame. La première fois, j'ai travaillé dans le restaurant ici. Après, il a appelé pour moi, la formation finie. Je contracte ici. Et maintenant, je travaille ici. Ça fait 6 mois.
Ouais, 6 mois, c'est
oui,
ça.
Oui, 6 mois. Le 13 décembre 2021.
J'avais dit en début d'année, tu vois, c'était en fin d'année passée. Ouais.
Le 13 décembre 2021.
Oui.
Ah, c'est le début de votre nouvelle vie.
Oui. Maintenant, je travaille avec chef, je suis très content avec tout le personnel. Maintenant, je connais un fond. Oui, oui.
Ouais, je pense que le plus délicat pour lui, c'était au début de comprendre comment fonctionne la gastronomie française, dans le sens les fonds de sauce, les bases des préparations. Je dis peut-être une bêtise, mais n'importe quoi, mais pour quelqu'un qui est complètement étranger à la gastronomie occidentale, l'émulsion d'une mayonnaise, c'est même quelque chose qu'il faut comprendre. Et quand on commence à faire des jus de viande, des bisques, etc., maintenant il fait la meilleure bisque de la baraque, alors qu'il savait pas ce que c'était avant. Il fait, ouais, non, mais je pense que c'était ça le plus compliqué à appréhender, c'est vraiment les. Une toute nouvelle façon de voir la cuisine avec des nouvelles règles du jeu, si je peux me dire. Donc voilà, c'est ça. Maintenant, ils s'en sortent super bien, quoi.
Et la cuisine, c'est quelque chose qui est important pour vous?
Oui. Chez nous, elle a fait bien les riz. Elle s'appelle Kabuli Palau. Oui. L'Afghanistan, tu allais dans quelle maison elle est préparée pour toi, Kabuli Palau. Aussi, l'autre, elle est à chaque manteau, elle est bien. Un peu ici, difficile, parce que à chaque manteau, elle a besoin de spécial casserole. Oui, je n'ai pas trouvé la casserole ici.
Je vais te l'acheter, Sherzad.
Oui.
Non, mais la casserole pour les mantous, il faut absolument la trouver.
Mais ouais, ouais.
Non,
d'accord, c'est un appel comme ça devant le podcast. D'accord, ok, je vais le trouver.
Alors, devant témoin, nous faut la casserole à mantous, mais il faudra m'inviter pour les goûter.
Voilà, on va faire ça. Ok, je vais te trouver la casserole et on va vous inviter.
On fait ça. Oui. Baptiste Ougarde, le chef donc, de la brasserie du Bio, qui sera également le chef de la brasserie Martin, qui va bientôt ouvrir, et Sherzad. Il y a également Mortaza qui a été embauchée. Quelle énergie! Quelle envie, Marine.
C'est une super équipe, ces équipes des brasseries, mais il y a plein d'autres restaurateurs en France. La formation Sésame, elle se passe à Paris, à Strasbourg, à Rennes, à Dijon. Il y a eu une promotion aussi à Mulhouse, même si ça a été compliqué pendant les 2 dernières années, parce que Covid. Il y a vraiment des restaurateurs qui ont à cœur de former, qui le font avec beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, et qui expliquent pour certains... que, comme tu disais un petit peu aussi, Pauline, que c'est aussi un cadeau parfois d'avoir ces personnes dans leur cuisine qui peuvent apporter aussi leur touche, leur technique. Voilà, que dès qu'il y a aussi de la confiance, ça enrichit aussi les équipes de cuisine. Donc il y a, voilà, certes, il y a un énorme besoin en main-d'œuvre, mais il y a aussi des restaurateurs qui sont très engagés et qui ont à cœur d'avoir des équipes cosmopolites.
Mais c'est important d'entendre, parce qu'on a du mal à imaginer justement qu'il y ait beaucoup de réfugiés qui aient du mal à trouver de la place et du travail, alors qu'on en a besoin. C'est cette frilosité-là qui en a du mal. C'est ce regard qui doit encore changer.
Je parle en tant que chef, et c'est moi qui embauche depuis quelques années dans les restaurants où je travaille. Et je pense que oui, c'est très bien dit, on a une certaine frilosité à se diriger vers ces profils-là. Alors qu'en fait, ça paraît totalement évident. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai pas mal d'amis restaurateurs qui travaillent avec des réfugiés. Et ils me disent, j'ai jamais eu un personnel aussi volontaire, précis. Ouais, où ils voient une évolution ou un partage. Enfin, franchement, moi, ça m'a un peu ouvert les yeux sur... c'est vrai qu'on a un peu des œillères. Faut qu'on évolue là-dessus. Et là, je trouve ce qu'on vient d'entendre, je me dis, mais oui, il faut qu'on change là-dessus, surtout qu'aujourd'hui, on manque cruellement de main-d'œuvre. Et il y a des gens qui cherchent du boulot, donc faut faire travailler ces gens-là.
Marie.
Il faut aussi rappeler, parfois, certains restaurateurs au téléphone peuvent nous dire oui, bien sûr, avec plaisir, mais bon, je ne peux pas m'embaucher des sans-papiers, etc. Donc, il y a aussi.
Confusion en l'occurrence.
Voilà, une confusion, en tout cas si on parle de personnes qui ont le statut de réfugiés ou bénéficiaires de la protection internationale, comme on dit. C'est des personnes qui ont les mêmes droits et devoirs qu'un citoyen français, hormis le droit de vote. Donc je pense qu'il y a un peu cette appréhension administrative légale, on va dire, mais qui en fait est très vite levée. Après, il y a l'appréhension de la langue. Mais bon, ouais. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup de langues différentes dans les cuisines des restaurants français. Ouais,
et puis, au final, la cuisine, c'est une langue universelle. Enfin, franchement,
on apprend en contact, en faisant, en s'exerçant, comme tout le monde.
Mais bien sûr, au final, voilà, ils deviennent des élèves, mais je pense que c'est à nous de montrer et de prendre ce temps. Et pour, au final, comme il dit, il fait aujourd'hui la meilleure bisque du restaurant, donc, donc voilà.
Gardons à l'esprit que ces réfugiés ont eu une vie avant.
Oui, voilà, ils sont comme nous, quoi. Enfin, il ne faut pas oublier que, oui, ils étaient peut-être ingénieurs ou peut-être cuisiniers, mais ils auront la même évolution que nous. Je pense qu'on a des a priori et qu'on se bloque, alors que c'est facile. On a juste à ouvrir un peu.
Essayer.
Non, mais déjà, mais moi, bien sûr, moi, par exemple, je vois mon plongeur qui est un réfugié. Moi, je vois, j'essaye. Tous les jours, de le mettre de plus en plus avec nous en cuisine. Parce que bon, bah, la planche, ça reste un...
C'est fondamental.
C'est fondamental, c'est notre pilier. C'est vraiment notre pilier. Enfin,
s'il n'y a pas de planche,
il n'y a pas de cuisine, on est bloqué. Mais j'ai envie qu'il s'ouvre à autre chose, qu'il découvre un autre métier, quoi. Et en tout cas, je sais que je prends beaucoup de plaisir. Et lui aussi, il apprend le français en plus. Donc, c'est super.
En termes de progression, d'insertion dans la société, il y a un aspect dont on n'a pas du tout parlé encore. C'est évidemment, mais qui est à cœur du Refugee Food Festival, c'est la durabilité, une cuisine responsable. Mais ça fait partie de tout cela. On va quand même parler d'Ukraine encore. Il y a beaucoup de femmes. On a vu les images des personnes réfugiées qui ont quitté l'Ukraine depuis le début du conflit. Beaucoup de femmes, de mères, d'enfants, de femmes aussi qui étaient dans leur foyer à travailler, à faire à manger, donc ont des connaissances. Certaines sont des cuisinières. Est-ce qu'elles ont conscience de cette richesse qu'elles ont entre les mains ?
Il y a une, certainement, qui le comprennent. Mais pour le moment, comme c'est pas pour la plupart de femmes ukrainiennes qui sont venues en France, ils n'ont pas encore choisi si... Ils restent après, ils sont souvent, je pense que dans la plupart des cas, ils sont soit avec un, soit avec deux enfants, ou ça arrive même de venir avec un enfant qui a perdu ses parents. Et donc, c'est un peu compliqué pour le moment, mais ça va arriver. Et c'est vrai que, en fait, ce que je peux dire par rapport aux femmes ukrainiennes, que c'est souvent des très bons cuisiniers. Des femmes qui ont hospitality dans leur sang. Je pense que ça, c'est vraiment très courant pour notre pays d'accueillir les gens, de recevoir les gens à la maison, de faire, même par exemple à Odessa, il y a la culture de se rejoindre avec les voisins et faire les fêtes de voisins où chacun ramène un plat dans des cours. Et donc, c'est vraiment un pays avec des gens très chaleureux et qu'ils ont forcément envie d'apprendre la culture de la France, de la cuisine de la France. Moi, je conseille en tout cas pour les restaurateurs, s'il y a la possibilité d'accueillir une femme ukrainienne, de le faire apprendre, je pense que ça va être un très bon échange.
Vous travaillez en ce moment?
Je ne travaille pas autant que cuisinier. J'ai un petit boulot de réceptionniste et je participe dans des événements caritatifs où je suis un peu chef freelance.
D'accord, okay.
Maintenant. Et non, mais parce que moi, j'ai vraiment envie de retourner en Ukraine et de continuer mon travail. Parce qu'en fait, je suis dans la période dans mon restaurant, on est ouvert il y a 6 ans. On a des projets et on est vraiment très impliqués. J'avais arrivé à un moment où j'ai vraiment une équipe qui peut se développer d'une manière très intéressante. Et ça, c'est vraiment mon rêve d'y retourner. Je veux vraiment participer à la reconstruction du pays. Je veux être là-bas, je veux en participer. Et j'ai un peu de mal de faire des choses temporaires. J'aime bien faire... J'aimerais bien, oui, peut-être, s'il n'y aura pas de possibilité de rentrer, j'aimerais peut-être faire mon projet, parce que ça me fait plaisir. Mais pour le moment,
c'est pas l'heure de ça encore.
Pas passé, oui,
bien sûr. Encore... Bon, on viendra vous voir.
J'espère bien.
On espère tous, bien sûr, que chacun pourra rentrer chez lui. Oui. Normalement, cette émission se termine avec une question un peu futile, du coup. Nika, qu'est-ce qui serait un ingrédient et un ustensile synonyme de l'Ukraine pour vous?
Je pense que ça aura été la crème fraîche, la nôtre. Elle est un peu différente de la crème fraîche française. Mais je pense que ouais, la cuisine ukrainienne n'existe pas sans. Et par rapport aux ustensiles... Bah, tous les outils sont importants. Je ne veux pas laisser les autres outils de côté.
Les mains, c'est un ustensile aussi dont on me parle souvent. Ouais. Pauline.
Moi, je pense à la pomme de terre. C'est pour moi l'ingrédient phare. Je ne me lasse pas. On peut le cuisiner de toutes les façons. C'est bon, quoi.
Souvent aussi.
Non, c'est la pomme de terre sautée, moi, je crois que je pourrais manger ça tous les jours. Et je serais très heureuse.
C'est pareil pour les Ukrainiens, en fait.
Bah,
c'est
voilà, la je suis pomme un peu ukrainienne aussi. Et voilà. Et en ustensile, là, comme ça, je pense au fouet. J'aime bien le fouet. C'est joli, déjà. Et ça permet d'émulsionner. Ça lie des sauces, vu que j'adore les sauces.
Et saucer.
Et saucer. Donc, du coup, oui, le fouet, pour moi, représente la complexité et à la fois cette émulsion en cuisine.
Merci infiniment à toutes les trois.
Merci.
Pauline Séné, Nika Lozovska, Marine Mandrila. Fripon, bien sûr, c'est lundi soir pour le dîner. Il reste encore des places pour pouvoir goûter la nourriture de Nika et de Pauline. Donc n'hésitez pas, les coordonnées sont sur la page internet du Goût du Monde pour lundi et déguster donc ce menu qui m'a l'air juste incroyable. Merci sincèrement à toutes les trois. Marine, le Refugee Food Festival, c'est jusqu'à la fin du mois, le 26 juin.
C'est jusqu'au 26 juin à Paris. Et dans les autres villes, il y a toutes les programmations. Sur notre site internet ou sur Instagram Refugee Food.
Sur les réseaux sociaux et sur la page du Goût du Monde, évidemment aussi. Merci beaucoup à toute l'équipe de Nouvelle Garde, le groupe qui a les brasseries du Bio, Bélanger et bientôt la brasserie Martin, la dernière née, à qui on souhaite une belle aventure. Merci à vous tous de votre fidélité. Merci à Laurie Plisson et Cécile Bonissi qui ont réalisé et mis en onde cette émission. Je vous souhaite une très très bonne semaine à tous. À la semaine prochaine.